Bonjour à tous. Nous sommes reconnaissants d'être avec vous ce matin, mais si reconnaissants, si aussi, tout aussi exercés que reconnaissants. Et donc, je n'aimerais pas prendre la parole sans avoir prié d'abord, parce que j'ai besoin moi-même de me recommander au Seigneur, et je pense que tous, nous avons besoin de se placer devant lui pour pas que vous écoutiez un homme, mais que vous écoutiez ce que le Seigneur veut nous dire par sa parole. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Nous avons besoin d'entendre ce que tu veux nous dire toi-même, moi le premier. Seigneur, parle, Seigneur, et donne à tes serviteurs d'écouter, Seigneur, et d'être attentif à ce que tu nous dis, parce que tu nous l'as rappelé maintenant. Tu vas venir te chercher d'un moment à l'autre, que nous soyons prêts. Seigneur, que nos lampes soient allumées, que nous puissions veiller, Seigneur, en t'attendant. Sanctifie cette heure et bénis encore ce moment, au nom de Jésus. Amen. Donc hier, nous avons pu nous retrouver quelques-uns chez Michel et Loïs pour partager quelques sujets de vie de couple et ce que le Seigneur a en vue pour cela, pour la vie des couples. Et nous avons besoin d'être très vigilants à cet égard parce que les temps sont difficiles. Nous savons, et je le disais hier, nous avons eu deux témoignages très sûrs de personnes très sûres qui nous ont dit que actuellement il y a une attaque particulièrement portée par l'ennemi sur les couples des couples chrétiens, et que deux sectes s'étaient liées pour prier Satan pour que ces couples soient détruits. Donc nous avons besoin d'une particulière vigilance. Et puis vous savez ce qui est précieux aussi, et on a eu une fille qui en a manqué beaucoup, c'est d'avoir dans des couples, alors nous le sommes, nous, un peu pour 18 petits-enfants, d'avoir des grands-parents, des personnes un peu âgées qui ont un peu d'expérience. Alors des fois, on a un peu marre des vieux, n'est-ce pas? Et pourtant, je crois que c'est riche. Et on a notre fille, notre seconde fille, qui, mon papa est décédé assez de bonne heure, donc elle ne l'a pas connue. Et ça lui a manqué, elle le dit encore aujourd'hui, ça lui manquait d'avoir pas connu son grand-père. Et c'est vrai que c'est précieux quand les trois générations peuvent se connaître et passer les relais ainsi dans la vie. Alors c'est justement ce que j'avais à cœur un peu ce matin avec vous, de regarder quelqu'un qui a été un grand-père pour l'Église, qui a vraiment porté un témoignage à l'Église des derniers temps. Je les avais emportés pourtant les derniers voies dans le désert que j'ai pu faire sur ce sujet-là d'ailleurs, mais je laisserai à Michel, il vous les passera, je ne sais pas si vous les avez reçus. J'en ai déjà un peu parlé dans le Voix dans le désert, de ce sujet-là que je vais reprendre maintenant. J'aimerais reparler de ce grand serviteur que même Pierre a dit, et le bruit a couru, qu'il allait vivre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Vous voyez, de qui je veux dire, c'est de Jean. Et lui, il vient jusqu'à quand? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, a répondu le Seigneur quand Pierre s'est retourné pour voir Jean. Que t'importe, toi, suis-moi. Donc c'est de ce serviteur Jean qui a connu le Seigneur de très près. Rappelez-vous que dans l'évangile de Marc, le Seigneur lui a donné le nom de Boanerges, ce qui veut dire fils de tonnerre. Ça ne veut pas être un caractère très facile, je pense. Et justement, parce qu'il n'avait pas un caractère très facile, il a dû d'autant plus apprécier l'amour du Seigneur pour lui, parce qu'il ne le méritait vraiment pas. N'est-ce pas? Mais justement, il a vécu très près du cœur du Seigneur, et c'est celui qu'on trouve dans le moment où le Seigneur a institué la scène. Il était penché sur le sein de Jésus. Et c'est lui qui lui a posé la question, quand Pierre lui dit, pose-lui la question, parce que qui est celui qui va le livrer, n'est-ce pas? Et donc, on voit une communion très particulière. D'ailleurs, il se qualifie lui-même, dans l'évangile selon Jean, comme le disciple que Jésus aimait. Pas que lui aimait, mais que c'est pas lui qui aimait Jésus, mais que c'est Jésus qui l'aimait. Et je trouve que ça, c'est très beau, n'est-ce pas? Ce sentiment de l'amour de l'autre pour soi, c'est cela qui donne d'ailleurs dans le couple, je l'ai souvent dit puisqu'on parle un peu des couples, dès que l'un pense qu'il aime l'autre plus que l'autre ne l'aime, le couple est déjà en danger. L'amour vrai, c'est celui qui pense que l'autre m'aime toujours plus que moi, parce qu'alors toujours je suis en train de chercher au contraire à gagner cet amour-là, et plus je sais que l'autre m'aime, plus j'ai envie de l'aimer. Donc ne pensons pas à notre amour pour l'autre, mais à l'amour que l'autre a pour moi. Et je crois que même dans l'Église, c'est la même chose, n'est-ce pas? Je crois, hein? Dès qu'on commence à... Dès que j'entends des frères et des sœurs qui commencent à dire dans l'église, eux, ils font ça, mais moi, je... danger, danger. Nous sommes tous solidaires dans l'église pour marcher avec le Seigneur. Alors, je ne vais pas lire, pas repasser tous les écrits de Jean. Vous les trouverez, si vous voulez, dans le désert, un petit peu ce tableau que j'ai voulu faire des écrits de Jean qui me semble magnifique. Quand on prend l'Évangile, les Épîtres et l'Apocalypse, qui sont les cinq livres écrits par Jean dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que Jean a une vision complète du plan de Dieu depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, puisque l'Évangile de Jean commence par « au commencement » et c'est vraiment l'éternité passée, et il va jusqu'à l'éternité future où il voit les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite. Et entre-temps, il y a tout ce plan qui est dévoilé dans l'Évangile, dans les Épîtres et dans l'Apocalypse. C'est fantastique. Allez lire ça et penchez-vous sur les Écritures. Ça vaut la peine, c'est fantastique. Moi, je vais simplement essayer de parler un peu de l'Épître de Jean, puis vous donner un petit témoignage de vie de famille pour que vous sachiez comment vous en servir de ces Épîtres. Il faut s'en servir. Elles sont données, les paroles des vieux, il faut des fois s'en servir un peu, ça vaut la peine, n'est-ce pas? Alors, si vous lisiez l'Évangile de Jean, malheureusement, j'avais fait un petit vidéo, puis j'ai malheureusement oublié la clé, vous l'auriez vu peut-être plus en image, ça vous aurait un peu vu. Quand vous lisez cette première Épître, alors je vais parler de la première Épître de Jean, on va faire un petit survol d'abord de la première Épître de Jean. Quand vous lisez la première Épître de Jean, c'est assez remarquable, il y a une espèce de tissage des versets entre eux où Jean va employer le « nous », va employer le « vous », va employer le « il ». Et c'est vraiment un tissage quand vous lisez ça avec attention, la première Épître de Jean, vous apercevez qu'il emploie ces choses d'une manière très forte. Et chaque fois... Alors, ça vaut la peine de s'arrêter sur les « nous », ça vaut la peine de s'arrêter sur les « vous », ça vaut la peine de s'arrêter sur les « ils ». Et je vais essayer juste de vous donner des pistes d'abord, parce que après je vous dirai pourquoi je vous ai donné ça, mais juste quelques pistes. Alors, on va simplement lire pour... Alors, au début, c'est vrai que là, il y a une petite parenthèse où il emploie le « nous » en parlant des apôtres, nous les apôtres qui avons connu le Seigneur, c'est vrai. Mais... ce « nous » qu'il emploie, d'une manière générale, vous allez le voir, c'est vraiment le « nous » dans lequel il partage l'héritage qu'il a reçu de la part de Dieu. Et ça, c'est le partage de l'héritage d'un père. Le père ne garde pas l'héritage qu'il a reçu pour lui, il le partage avec les enfants que Dieu lui a donnés. Et Jean va faire cela, c'est le partage du père. J'ai appelé ça le partage de l'héritage d'un père. Alors vous avez par exemple, je prends un exemple, je prends que des exemples parce que je ne vais pas entrer. Chapitre 3, verset 1er, il dit « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes et le monde ne nous connaît pas. C'est lui qui, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Simplement cette phrase. Nous, il partage ce « nous » avec les autres. Il ne met pas en doute la foi de ceux à qui il s'adresse. Voyez de quel amour le Père, ce n'est pas eux apôtres. Hein, vous le comprenez bien ici. C'est le « nous » qu'il partage avec les uns et les autres. Et est-ce que, dans l'Église, nous partageons ce « nous » avec les uns et les autres? Voilà une question qui se pose. Vous savez, quand j'ai repris le « Voix dans le désert » après Jacques Buisson, le premier « Voix dans le désert » que j'ai fait, bon, et heureusement, j'ai eu encore ce cher frère pendant 3 ans et demi, chose magnifique, je ne sais pas si c'est un petit clin d'œil de Dieu de plus qui m'a été donné quand on se marie à Gramma, mais pendant 3 ans et demi, j'ai eu encore la... Alors qu'on pensait qu'il allait décéder très vite après m'avoir donné le relais, il est resté encore 3 ans et demi. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais 3 ans et demi, c'est quoi? C'est le temps que Jésus a mis pour former des disciples. 3 ans et demi, il les a appelés, il les a formés, puis il est parti. J'ai vécu un peu cela avec Jacques Buisson. Mais le premier voyage dans le désert que j'ai fait, j'avais pris les articles et j'avais employé le « vous ». Il m'a dit Jacques Buisson, jamais Eric n'emploie le « vous » dans le voyage dans le désert. Même pour parler du salut, emploie toujours le « nous », pour ne pas montrer les autres du doigt, mais pour que vraiment, nous soyons associés aux autres. Et c'est une très grande leçon qu'il m'a donnée ce jour-là, le « nous ». Le « nous » de partager ce que nous avons avec les autres, c'est le partage de l'héritage. Nous avons un grand héritage. Le psalmiste dit « tu as fixé mon lot dans un bel héritage ». Mais cet héritage, ce n'est pas pour que « à moi, comme on fait dans le monde ». Non, c'est le partage. Et vous savez que dans les choses de Dieu, le partage multiplie les choses. Dans les choses du monde, le partage, ça divise, ça. Dans les choses de Dieu, le partage multiplie la richesse. Partageons ce que Dieu nous a donné. C'est ce que Jean fait ici quand il emploie le nous. Vous regarderez tous les passages. Prenez votre Bible, faites comme moi. Moi, j'avais teinté tous les. Tout, sur cette, je vais dire ici. Hein, j'avais teinté tout, ici toutes les choses, toutes les l'épître de Jean, je vais vous le projeter. Vous pouvez le passer si vous voulez. Avec les nous, les vous et les ils. Premier point, le nous. Je passe rapidement pour parler du vous maintenant. Il parle après du vous. Je prends un verset ici, le verset 20 du chapitre. Donc vous êtes à la même page, là, si vous avez la même Bible, enfin les Bibles là. J'ai lu le chapitre 3, le verset 1er, maintenant j'ai le chapitre 2, le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous écris, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. C'est beau cela. Par contre, quand il parle du vous, il les encourage, il leur montre, si j'ose dire, les richesses qui sont à eux. Il ne les garde pas pour lui, il les donne pour vous. Vous connaissez ces choses. Ce n'est pas pour les accuser, au contraire, regardez ici, il montre ces choses. Vous avez reçu l'onction. Comme si presque il disait, il se met presque en dessous pour dire, presque comme s'il avait l'air de dire, mais moi, on aurait pu dire, là, nous avons reçu l'onction. Non, là, il dit vous. C'est quand même assez étonnant, n'est-ce pas, ces choses-là. Là, il dit vous. Parce que ces richesses de Dieu, cet enseignement de Dieu, il va leur donner maintenant. Et le vivre avec eux, ce vous, leur faire vivre à eux, c'est les amener à prendre, à saisir ces choses. Vous avez. Est-ce que vous l'avez saisi? Est-ce que vous l'avez compris? C'est l'enseignement d'un père. Mais vous savez ces choses? Vous savez ces choses? Mais ce n'est pas tout de les savoir là, mais prenez-les, saisissez-les. Vous savez ces choses? Qu'est-ce qu'en vous en faites? Voilà le vous qu'il emploie ici pour, non pas d'une manière accusatrice, mais d'une manière, enfin, saisir la grandeur du plan de Dieu, le plan merveilleux de l'enseignement, de l'enseignement qu'il leur a apporté, mais il est à vous! Il est à vous! C'est pas le mien, c'est le vôtre! Prenez-le maintenant, je m'en vais, moi. Prenez-le. C'est votre. C'est vous qui l'avez reçu. Alors vous verrez, tous les vous, presque, ils sont tous, c'est frappant quand on relit ça, et quand vous mettez les passages, ils sont presque tous sur ce terrain-là. C'est assez magnifique de voir comment Paul, comment Jean ici emploie ce nous et ce vous d'une manière très intelligente, n'est-ce pas, de la pensée de Dieu. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, n'est-ce pas, qu'un homme était si près de Dieu qu'il ait employé des choses d'une manière si pertinente. Donc, encore ce verset, pour vous, vous avez reçu. J'aime ce verset, n'est-ce pas, vous l'aimez, je pense. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. La question nous est posée à chacun. Vous avez reçu l'onction de celui qui est saint. Mais ici, vous voyez que même Jean n'en doute pas. Vous avez reçu l'onction de celui qui est saint. Chers amis, mais quelle merveille! Vous l'avez reçu maintenant. L'avez-vous saisi? Je peux recevoir un cadeau, puis ne pas le saisir, ne pas le prendre. Mais vous l'avez reçu, il est là. Il est là pour vous, dit Jean. Vous avez reçu. Et puis il y a l'expression, donc, le troisième personne, il. Pour revenir au vous, il dit, rappelez-vous d'ailleurs, je pense que le Seigneur reprend ici une parole de Jésus lui-même. Rappelez-vous quand le Seigneur Jésus a lavé les pieds des disciples, quelle est la fin de l'enseignement qu'il va en donner? Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les faites. Si vous savez ces choses, je cite toujours la version de la Bible, c'est malheureusement dans laquelle j'ai grandi, mais bon. Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les faites. Si vous les faites. Vous les avez saisies, alors faites-les. Faites-les. Voilà ce que le Seigneur vient enseigner aussi. Et il le dit le vous aussi, là, le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous avez saisi ces choses. Si vous savez ces choses. Puis il va employer donc le « il ». Alors il va l'employer de deux manières différentes ici, et vous allez voir. La première, c'est, me semble-t-il, pour apporter les avertissements d'un père. J'ai parlé donc, le « nous », c'est l'héritage d'un père. Le « vous », c'est l'enseignement d'un père. Et ici, ça va être le « il » des avertissements d'un père. Parce que sur ces points-là qui sont délicats, par rapport à des choses qui sont difficiles, Il ne, veut nommer personne, il met le « il ». Il. Ce qui se passe dans le monde, ce qui peut se passer, il, je ne sais pas qui. Il ne préfère pas le savoir, c'est il. Alors, je prends la page suivante, juste au chapitre 2, au verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il parle d'une personne comme ça, je ne sais pas qui, mais attention, est-ce que vous ne faites pas partie de cela? Ou est-ce que vous, au contraire, faites partie de cela? Parce qu'il y a les deux à la fois ici. Oui, ou ceux qui marchent dans les ténèbres, ou ceux qui, au contraire, c'est pas celui qui aime son frère ou celui qui ne l'aime pas. Donc il va parler de ces choses-là à la troisième personne. Et reprenez tous ces passages où il parle d'huile, c'est toujours pour donner des enseignements de cette manière-là. L'enseignement qui nous place dans ce qui se passe autour de nous, je ne veux pas savoir comment, mais attention, ce que ce « il » ne gêne pas votre « vous ». Voilà ce qu'il a l'air de dire, attention, c'est le « il ». J'espère que ce n'est pas chez vous. Et j'espère tellement qu'il emploie le « il ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est très fort ici chez Jean, et dans cette épître de Jean. Il emploiera le « il » aussi à la femme, mais d'une manière très différente. Alors ça, c'est le « il », j'ai marqué dans ma note, c'est le « il » de la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance du Père, de celui qui sait les choses. Et c'est lui qu'il emploiera à la fin de son épître, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Il parle ici aussi à la troisième personne, mais en parlant de Jésus-Christ. Il est venu. C'est cette connaissance qu'il a du plan merveilleux de Dieu et qu'il a transmis aux siens. Donc, relisez cette épître. C'est dans le dernier chapitre qu'il emploie ce « il-là ». Il emploie un peu plus loin encore. Donc, il parle de cette manière-là d'une manière très forte, Jean. Et son témoignage, quand on le relit de cette manière-là, ça donne une vision toute particulière de ce que Dieu attend de nous. Nous, la famille de Dieu, comment allons-nous vivre? C'est nous que nous allons partager. C'est vous dans lequel le Seigneur nous parle. C'est il dans lequel il nous avertit. Et c'est il dans lequel il nous fait connaître ce qu'il a fait pour nous. Alors maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Justement, à propos de cette, pour montrer comment un père peut se servir de cette épître, parce que c'est pas, nous est pas donné simplement pour faire de l'intellectualisme, mais pour le vivre. Nos enfants étaient très petits, encore, et notre petite Marthe, la dernière, devait avoir 4 ans, je pense. Oui. Elle était juste à la maternelle, où elle commençait juste à apprendre à lire. Et puis, à table, vous savez ce que sont 5 enfants à table, tous les parents, ça discute, ça papote, etc. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, voilà que Marc, qui lui, vous l'avez connu à Nantes, lui, c'était déjà, il avait appris à lire déjà, alors c'était déjà en maths sup, presque, hein, parce qu'il était en, donc il savait tout, quoi. Hein. Et il savait lire maintenant sa Bible, alors c'était formidable. Le soir, bien sûr, on pouvait lire avec lui la Bible, c'était formidable. Alors je ne sais pas, d'un coup, à table, Marthe, à ce moment-là, qui était petite, avait gardé un surnom qu'elle s'était donné à elle-même, le surnom que tous les enfants ont, un petit nounou, elle s'appelait Nounou. Je m'appelle Nounou. Et on ne pouvait pas la décrocher de là, elle s'appelait pas Marthe, elle s'appelait Nounou. Donc il fallait l'appeler Nounou. Marthe, c'était notre Nounou. Et voilà qu'à table, une discussion entre les enfants, entre Marc et Marthe, les deux M, qui se confondent des fois. Et Marc dit, moi, mon nom, il est dans la Bible. Mon nom, Marc, c'est dans la Bible. Marc, c'est dans la Bible. Alors tout le monde dit oui, oui. Puis, bon, les autres aussi, il y avait Sarah qui était dans la Bible, etc. Puis Marthe dit, moi aussi, nounou, c'est dans la Bible. Alors Marc, qui était forcément, qui avait la science, il a dit, mais non, c'est pas nounou qui est dans la Bible, c'est Marthe qui est dans la Bible, mais pas nounou. Non, nounou, c'est dans la Bible. Nounou, c'est dans la Bible. Et puis, la discussion devenait âpre. Et je voyais Léon, qui est toujours, mon fils Léon, qui est toujours un diplomate de première, déjà tout petit, ça se voyait, il me jetait des regards suppliants, papa, quand c'est que tu vas intervenir dans cette discussion? Et puis moi, pour le moment, je n'avais pas à intervenir, on ne me posait pas la question. Et puis tout d'un coup, la petite Marthe me dit, « Papa, c'est vrai que nounou, c'est dans la Bible ?» Mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui ai dit, « Oui, ma chérie, on le verra tout à l'heure. » C'était le soir, donc on le verra quand on lira la Bible ensemble. Marc me lance un défi avec un petit sourire narquois. Papa, il déboulonne. N'est-ce pas? Il s'en rappelle comme si c'était hier de cette histoire. Pour ça, ils étaient petits, hein, mais il s'en rappelle comme si c'était hier. Papa, ça va pas. On attend la fin du repas, puis on s'assoit dans au salon pour lire la parole. Et je prends ce premier verset. Et je vois toujours la tête de Marc. Nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Je vois Marc, ça y est, papa m'a eu. Et oui, nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, je mettais nounou à ce titre. Et ça les a marqués, ils se sont rappelés du coup de tous les versets de Jean. Et savez-vous que dans Jean, il y a 7 fois le nounou. Même dans Narbi, il y a 8 fois le nounou. C'est une autre expression où les deux nous sont rapprochés alors qu'ils ont été séparés par un mais dans la version ici. Et c'est justement, c'est un peu c'est. Et du coup, ce soir-là, ça m'a amené moi-même à faire le point sur ces nounous qu'on trouve dans l'Évangile selon Jean, et j'aimerais les regarder avec vous. Maintenant, vous allez voir, ils sont merveilleux. Parce qu'ils donnent le plan de Dieu. C'est frappant. Là aussi, ça m'a frappé ce jour-là. Ils donnent le plan de l'amour de Dieu pour nous. Donc ce premier nounou, je les prends à l'envers parce que vous allez voir pourquoi. Je vais les prendre en remontant l'Évangile de Jean, et après je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il me semble que c'est en plus dans ce sens-là qu'il s'explique et qui se complètent les uns les autres. C'est assez frappant. Donc le premier, c'est le chapitre 4, et le verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Une déclaration fantastique. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. De quel amour. Nous savons, nous, de quel amour il nous a aimés. Mais dites-moi, même le monde, ne peut-on pas faire valoir l'amour de Dieu pour ce monde? Les saisons, les pluies, le temps, tout ce que le Seigneur donne de bénédiction que le monde oublie, pour lequel le monde oublie de rendre grâce, pour lequel nous devons rendre grâce pour lui. Dieu nous y invite dans l'Épître à Timothée. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ça c'est vrai que c'est la grande chose que nous proclamons, mais même dans les choses. Dans la chose créée, c'est ce que l'Épître aux Romains montre, Dieu a aimé, nous a aimés, et nous n'oublions pas. Donc c'est l'amour. Nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Quelle bénédiction est la nôtre de pouvoir l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Mais, oui, c'est vrai. Mais des fois j'entends dire, on aime le Seigneur et puis, c'est comme ça, ça suffit, comme un amour. Oui, bon, il m'a aimé le premier, donc moi je l'aime, mais est-ce que c'est un amour engagé que nous avons? Alors si vous prenez le second nous, vous l'avez au verset 16 du chapitre précédent. Nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Ah là, il y a quelque chose que Jean ajoute, et nous y avons cru. C'est pas tout d'avoir une, tout à l'heure j'ai dit, un cadeau qui nous est envoyé, mais nous, il faut le saisir, nous l'avons cru. Nous l'avons pris pour nous, il est l'amour que Dieu m'a donné, il s'est donné pour moi, je l'ai pris, j'ai cru. Est-ce que nous avons tous cru ici dans cette salle? Est-ce que nous n'avons pas simplement parlé de l'amour de Dieu parce que ça fait du bien, parce que ça permet de chanter des cantiques, parce que ça permet de se retrouver, parce que ceci, parce que tout ce que vous voulez dans une église. Mais la force, c'est d'avoir cru ce que cet amour qui nous a été donné. Et ici, Jean le dit. Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voilà la phrase forte ici du premier point que Jean va souligner ici. Nous avons, l'amour de Dieu est là, mais faut-il le saisir, faut-il le croire? C'est pas simplement de le dire, c'est de le croire, c'est de le saisir, c'est de le prendre. C'est le second point qui me semble très fort de ces 7 nounous ici que nous trouvons dans l'Évangile de Jean. Dans l'Épître de Jean. Et si nous l'avons cru, cet amour, qu'allons-nous en faire? Vous savez, quand le Seigneur Jésus a été interrogé quel est le plus grand des commandements, Qu'est-ce qu'il a répondu ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de ton corps, de ta force, de ton âme, de ta pensée, etc. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est facile de dire de j'aime Dieu, c'est même facile peut-être de dire je crois que je crois en lui. Comment cela se voit ? C'est pour ça que le Seigneur associe toujours l'amour qu'on a pour Dieu à l'amour du prochain. Parce que si je dis j'aime Dieu, d'accord, et que je haïsse mon frère, je peux toujours parler. Parle toujours, tu m'intéresses, comme on dit dans le monde, n'est-ce pas ? Mais ça ne sert à rien. C'est pour ça que le troisième « nous » que nous trouvons, au verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu, personne ne l'a jamais vu. Qui va montrer Dieu au monde ? Nous, nous l'aimons. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Voilà comment la perfection de l'amour de Dieu auquel nous avons cru doit se manifester. C'est dans l'amour de l'autre, dans l'amour du prochain. Dans la manière dont nous vivons cet amour de Dieu nous-mêmes, ce n'est pas simplement d'en parler, ce n'est même pas de l'avoir cru, excusez-moi, c'est même de le montrer. Et toute l'Écriture est basée sur ce fondement-là, ce que nous avons cru, nous devons le vivre. Dans l'Ancien Testament, c'était pareil. Il fallait faire ce que Dieu disait, il ne s'agit pas simplement de l'avoir, d'avoir... Hein, votre Bible, si elle est rangée chez vous, elle ne vous sert à rien. Excusez-moi, elle ne vous sert à rien. Elle vous sert quand vous commencez à la voir là, non pas sur l'étagère, là. Et quand là, elle guide vos pas. Personne n'a jamais vu Dieu, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Quelle expression. Arrêtons-nous sur le verset, ça vaut la peine, n'est-ce pas ? Son amour est parfait en nous. Voilà la perfection que Dieu attend de nous. Non pas, c'est vrai, on ne peut pas vivre l'amour si on ne l'a pas saisi. Donc c'est vrai que, c'est ce qu'on disait hier soir, pour le mariage même, d'abord la vie. Saisir l'amour, le croire et le vivre. Saisir, croire, vivre. Et maintenant ce témoignage... Nous allons le vivre, oui. Bonjour les dégâts. Tant qu'on est entre nous, là, c'est bien. On s'entend bien, on passe de bons moments ensemble. Encore même des fois dans les églises, c'est pas toujours rose, hélas, parce que nous avons nos fichus caractères qui souvent réapparaissent. Mais quand il faut sortir dans le monde, c'est autre chose. Parler de l'amour de Dieu dans le monde, on dirait qu'on l'agresse. On lui parle d'amour et on dirait qu'on le tue. Eh oui. Faut-il se décourager pour autant ? Le quatrième nounou nous y invite à comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous, verset 6 de ce même chapitre, nous nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous avons apporté notre témoignage qu'on nous écoute ou qu'on ne nous écoute pas. Ceux qui nous écoutent sont de Dieu, ceux qui ne nous écoutent pas ne sont pas de Dieu. On avait un cher frère colporteur qui est maintenant décédé. Il me disait, moi je frappe aux portes. Il va distribuer des bibles, il les ouvre aux portes, et puis quand les gens me crachent à la figure, me renvoient, mais je leur dis merci, parce que vous n'êtes pas encore prêts, alors j'attendrai que vous soyez prêts. Alors je vais, vais à l'étage au-dessus, vous n'êtes pas encore prêts. Dieu, bon, mais Dieu ne va pas travailler dans votre cœur, mais j'attendrai, un jour ça viendra. Au revoir, monsieur, c'est tout. Il n'insistait pas. Vous ne voulez pas le recevoir, mais vous ne voulez pas le recevoir. Dieu ne nous a pas préparés pour recevoir son soi parole. Bon, mais je prierai pour vous, puis je continue. Puis il va au chapitre 6. Bon, c'est vrai qu'il m'a dit, c'est des fois un peu dur, hein, quand vous entendez, vous apportez l'amour de Dieu et vous entendez des insultes, c'est pas toujours facile à recevoir. Mais regardez ce verset, relisez ce verset. Nous, nous sommes de Dieu. Voilà le fondement. Et on l'a vu tout à l'heure, son amour est parfait en nous. Nous, nous sommes de Dieu. Eh bien, celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. Nous sommes là comme un coin dans le monde et qui fait la séparation entre le bien et le mal. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous décourager. Celui qui nous écoute connaît Dieu, celui qui ne nous écoute pas ne le connaît pas. Je prierai pour celui qui ne connaît pas encore, pour qu'un jour ou l'autre, Dieu se révèle à lui. et qu'enfin ils viennent écouter, et qu'enfin ils se joignent à l'Église. Mais en attendant, il faut continuer notre chemin. Et comment le continuer? C'est pas facile toujours, n'est-ce pas? Je pense que tous, des moments, on a envie de baisser les bras, de dire, bon, mais on va vivre notre petite vie chrétienne dans notre petit trou, tranquille, et puis c'est tout, quoi, hein? Comment continuer? Quelle est la ressource? La prière. Quoi que ce soit que verset 22 que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. J'ai lu ce verset, bien qu'il soit, il y a deux phrases. D'habitude, vous avez remarqué que pour les nounous, j'ai lu qu'une phrase. Mais la seconde phrase du nounou, elle est liée à celle-là, parce qu'il dit « si ». Et c'est ici son commandement. Donc, c'est ici son commandement. Il a parlé du commandement pour pouvoir prier, pour être nous-mêmes dans l'obéissance de Dieu. Et si je suis dans l'obéissance de Dieu, si j'ai gardé son commandement, et le même apôtre, vous rappelez-vous, dans le dernier chapitre 5, dit son commandement n'est pas pénible parce que, n'est-ce pas, l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs permet de le vivre. C'est pas un commandement qui me dit il faut faire ça, il faut faire ça. C'est parce que quand on aime quelqu'un, on est heureux de lui faire plaisir. Et les choses viennent naturellement. C'est ça son commandement, ce n'est pas une loi, c'est un commandement d'amour qu'il nous donne. Je ne sais pas, quand vous recevez, moi je me rappelle, quand j'étais étudiant à Paris, je recevais des lettres de mon grand-père qui me demandaient des fois, et comme il était dans l'astronomie, il y en a qui le savent, parce que quand ils sont venus chez nous, il y a plein de boules et de lunettes astronomiques que j'ai récupérées de chez lui. Mais alors il m'envoyait souvent dans une petite rue de Paris pour aller chercher de ceci, cela, pour un peu d'astronomie, pour faire des boules, pour faire des trucs comme ça. Mais moi j'étais heureux, dès que j'avais reçu sa lettre, je quittais tout pour aller dans cette rue chercher ce qu'il cherchait. Et pourtant, ce n'était pas facile de trouver ce qu'il voulait. Mais je passais des fois, à Paris, vous savez comment sont les choses, on passe une demi-journée facilement à trouver, à aller faire un aller-retour en ville. Donc, mais on est heureux de le faire quand on aime quelqu'un. On est heureux, on n'hésite pas une minute. Au contraire, on lâche tout pour ça. C'est ça le commandement d'amour. Donc, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Donc ici, de nouveau, ramener à cet amour des uns pour les autres. C'est ici son commandement que nous nous aimions. Attention, ne perdons pas de vue cette chose-là. Ne perdons pas de vue l'exercice pratique de notre vie chrétienne sans lequel la prière même devient inefficace. C'est très fort ici le passage. Donc, oui, je vais sortir dans le monde, je vais rencontrer des difficultés. J'ai une ressource, la prière, à condition que je marche dans le plan de Dieu, avec toujours devant moi, toujours devant nous, l'amour de Dieu. Et cet amour vécu. Cet amour qui se donne. Il n'y a pas de limite à l'amour. Il n'y a pas de limite à l'amour. C'est peut-être des choses qu'on a un peu de mal à apprendre, mais c'est vrai. Le Seigneur a dit d'aimer nos ennemis. Il nous a dit d'aimer nos ennemis. Ça va très loin. On aime bien nos amis, mais aimer nos ennemis. Et quand vous pensez, pourquoi, et quand vous lisez bien des témoignages des frères qui souffrent et qui ont souffert des persécutions, moi je suis écrasé par ces choses-là. Quand on voit la manière... Je sais qu'on avait reçu ces frères russes qui étaient venus et qui, à peine le rideau de fer, bon, qui avaient vécu 20 et plus d'années en prison et voire dans les conditions, ils nous ont montré quelques photos d'après qu'ils avaient pu refaire des photos une fois qu'ils avaient été libres, qu'ils étaient revenus quand le rideau de fer est tombé, mais des cellules dans lesquelles ils vivaient, mais c'était effrayant. Et pourtant, à peine le rideau de fer est tombé, ils sont allés retrouver leur geôlier pour leur dire « Nous vous aimons. Mais pourquoi vous venez? Vous venez vous venger? Non, on vient vous dire qu'on vous aime. C'est pas vrai. Eh oui, on vient vous dire qu'on vous a aimé. Nous qui vous avons fait tellement souffrir pendant tout ce temps-là, ils étaient écrasés. Et ça écrase ces choses-là. Mais c'est la force du témoignage. Et c'est de cette manière que l'on peut prier. Et ces frères-là priaient pour leur geôlier. C'est vrai que je suis écrasé moi-même, je vous donne ces conseils, mais vous savez que je m'envoie pour les vivre. Hein. Ne croyez pas que je suis au-dessus de vous parce que j'ai reçu ces choses. Mais Quand j'ai reçu ça avec mes enfants, quand j'ai relu ça, mais c'est nounou. Elle nous avait amené sur un terrain, notre petite fille, sans s'en rendre compte, qui m'a, les unes après les autres, ces choses se passaient devant moi, mais Seigneur, mais que tu es grand dans ton plan d'amour pour nous. Et puis le dernier que l'on trouve, enfin je pense, au moins si je ne me suis pas trompé, c'est surtout au chapitre premier, et celui-là il est un peu, ça coince un peu. Quand vous faites ces choses, vous, est-ce qu'après avoir fait tout le service que vous avez, qu'on a fait, tout ce qu'on a pu faire pour le Seigneur, Seigneur maintenant tu me dois le ciel, hein? Je suis un, hein, j'ai gagné les cocardes là, pour aller au ciel. Que disait le serviteur dans Luc ? Nous sommes des serviteurs inutiles. Ce que nous avions dû faire, nous l'avons fait. Et nous devons remarquer, nous devons aussi confesser, je dois le confesser, que vivre cela, ce que je viens de dire, c'est facile de le dire ici, en chair, mais c'est plus difficile de le vivre, c'est vrai. Et que nous réalisons tous que nous péchons à plusieurs égards, comme dit Paul lui-même. Alors, quelle est la ressource ? C'est ce que vient de dire ici Jean. Chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Ne pas se séduire soi-même, c'est simplement reconnaître que si ce que j'ai, je l'ai par grâce. Je ne l'ai pas, et que tout ce que j'aurais pu accomplir dans ce plan de Dieu n'est qu'encore qu'une grâce. On l'a dit hier soir au couple, c'est vrai par la grâce de Dieu, mais avec ma bien-aimée, je peux vous dire que ce n'est qu'une grâce. Nos enfants sont au Seigneur par grâce. Nous n'y sommes pour rien. Nous avons fait ce que nous devions faire, mais le Seigneur a fait, lui, des grandes choses. Et c'est son plan d'amour. Ce n'est pas. Nous n'avons pas gagné le ciel parce que nos enfants sont au Seigneur. C'est pas ça. C'est une grâce. Et je sais que ça sera encore une miséricorde, comme le dit Paul, de la part du Seigneur, de me recevoir dans le ciel. Prenons garde. J'ai entendu dire souvent, oh, maintenant, ça y est, les chrétiens. Et il y a une théorie, même un mouvement chrétien qui est né sur ces choses-là, le chrétien ne pêche plus. Il est sauvé, il ne pêche plus. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Point final. Nous nous séduisons nous-mêmes. La question n'est pas là. La question, au contraire, c'est que, justement, mes faiblesses ne font que ressortir la grâce du Seigneur, l'amour du Seigneur, le prix qu'il a payé à la croix pour moi. C'est cela dont j'ai besoin, c'est de mesurer chaque jour l'immensité de l'amour de Jésus qui se donne sur la croix pour moi, quand il a pu dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Est-ce que nous avons réalisé ? Est-ce que nous pouvons dire « C'est pour moi, c'est parce que mes péchés t'ont coûté si cher, Seigneur. » Pas regarder l'autre, lui, il fait ceci, lui, il fait cela, lui, il fait ceci, il fait cela. Non, Seigneur, c'est pour moi. Nous n'avons pas à nous séduire nous-mêmes et à nous croire plus forts que les autres. Hélas, nous risquons d'avoir cette tendance-là dans nos milieux chrétiens et d'évangéliser avec un esprit de supériorité par rapport au monde. Même cela, prenons garde. Nous n'avons pas à prêcher les autres parce que nous sommes meilleurs qu'eux, mais parce que nous avons reçu la grâce de Dieu et parce qu'au contraire, nous étions pires qu'eux. Même si je n'ai pas peut-être fait, parce que j'ai été élevé dans une famille chrétienne, j'ai été élevé par la grâce de Dieu dans une famille chrétienne, j'ai évité des grands pièges dans lesquels peut-être certains d'entre vous ont pu tomber pendant leur jeunesse. Qu'importe. Je sais qu'au fond de mon cœur, le piège y était tendu avec une force peut-être plus forte encore que celle que vous avez vécue vous-même. Il faut apprendre à se connaître devant Dieu et se mettre devant la face de Dieu et dire « Seigneur, je suis un pécheur comme les autres et j'ai besoin de ta grâce pour aller debout. Autrement, je me séduis moi-même, mais je ne séduirai jamais Dieu par mes propos,
Il ne se laissera pas séduire parce que je pourrais lui raconter de boniments sur ma manière de vivre. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'aime beaucoup la parabole. Pardon, oui, je ne sais pas toi, non, ça va encore. Comme 5 minutes. J'aime beaucoup la parabole que le Seigneur donne à la fin presque de son ministère quand il parle des brebis et des chèvres ou des brebis et des boucs. Il met les uns d'un côté, les autres de l'autre. C'est une parabole un peu difficile. Quand on la lit assez rapidement, on ne voit pas tout le plan que Dieu donne. Mais il dit aux uns, j'ai été en prison et vous m'avez visité, etc. Vous connaissez tout le passage, vous m'avez donné à boire, etc. Et eux, ils disent, mais quand c'est que nous l'avons fait, Seigneur? Nous n'avons pas eu conscience de l'avoir fait. En tant que vous l'avez fait à un de ces petits, vous l'avez fait à moi aussi. Mais eux n'ont pas, ils ne mettent pas en avant, oui Seigneur, nous avons fait ça. Par contre les autres, quand ils viennent les voir, ils disent, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Comment Seigneur? On ne t'a pas visité, mais on en a fait des œuvres pourtant. Hein, on est allé en prison, on est allé te voir, on en a fait Seigneur. Comment tu oses dire ça toi? Allez-vous-en loin de moi, je ne vous connais pas. Parce que vous n'avez pas fait un de ces petits, je ne vous connais pas. C'est une parabole très dure celle-là. Hein, je sais pas si vous, on la lit facilement, mais elle est très dure. Et mais elle est très vraie. On ne se moque pas de Dieu. On a à apprendre à se connaître. Et être vrai devant Dieu, ne pas se séduire soi-même. Et au centre de cette épître, presque je dirais, c'est pour ça que je pense que dans les nounous qui sont présentés, l'ordre est inversé, parce que Dieu veut nous attirer d'abord, mettre le doigt sur ce problème de la séduction du monde. Et la séduction du monde, pas simplement par l'extérieur, mais par nous-mêmes. Nous, nous séduisons nous-mêmes. Nous ne sommes pas forcément séduits par tout ce qui se passe dans le monde, mais par notre cœur. Les affiches, la radio, tout ce qui se passe ne nous séduira pas si notre cœur n'est pas séduit d'abord. C'est dans notre cœur que se passent les choses. Toujours dans l'Écriture. Tout commence par l'intérieur, jamais par l'extérieur. On le disait hier en parlant de l'arche de Noé où la poix a été mise d'abord dans l'intérieur avant d'être mise sur l'extérieur, ce qui est frappant. D'abord sur l'intérieur parce que c'est mon cœur. Si le cœur est et libéré de ce moi qui me fait souffrir, alors c'est la mort avec Christ. C'est pas simplement Christ est mort pour moi, mais moi je suis mort avec Christ. Allez dire je ne sais pas s'il y a un cimetière dans le quartier, allez leur présenter une image, n'importe quoi, porno et tout ce que vous voulez. Vous croyez qu'ils vont bouger là-dedans? Personne ne va bouger. Vous pouvez leur raconter toutes les histoires que vous voulez, leur faire chanter toutes les chansons que vous voulez, personne ne va bouger. La mort est passée. Et quant aux choses, aux séductions du monde, nous devons être tels. C'est pas facile toujours. Hein, c'est qu'on est dans un monde audiovisuel et autres trucs dans lequel on est agressé en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Mais le Seigneur est là. Et si nous passons, nous revenons en arrière, nous savons, connaissons son amour pour nous. Il nous a aimés le premier. Alors, qu'est-ce qui me garde? C'est cet amour de Jésus pour moi. Ce n'est pas moi qui vais me garder, mais cet amour de Jésus pour moi. Moi, j'aimerais me laisser séduire moi-même, mais c'est lui qui veut me garder. Et aussi, je disais, au centre de ce passage, pour nous parler du cas le plus terrible qu'on trouve dans l'Écriture et qui commence l'Écriture, c'est le cas de Caïn. Pourquoi Caïn tua-t-il son frère? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. C'est le verset central presque de cette épître. Quel chemin allons-nous suivre? Celui de la séduction, de la tromperie, mais croyez que Dieu s'est trompé? Quand il est venu lui dire, où est ton frère? Suis-je moi le gardien de mon frère? Tu me prends pour un rigolo? Suis-je moi le gardien de mon frère? Dieu savait tout, mais il lui pose la question. Et il dit ici, Jean va donner la conclusion de cette histoire-là. Ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Nous ne savons pas ce qu'on a parlé du retour du Seigneur. Peut-être qu'il peut venir maintenant. même pas demain, c'est le mot qu'on n'a pas le droit d'employer quand on parle du retour du Seigneur, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le mot d'aujourd'hui, le mot de maintenant, c'est maintenant le jour du salut. Mais comment va-t-il nous trouver? Est-ce que nous avons saisi l'amour de Jésus pour nous? Est-ce que nous y avons cru? Est-ce que nous nous sommes engagés, y engagés pour en témoigner autour de nous en l'attendant? Et même si nous devons connaître des difficultés, savoir les porter devant le trône de la grâce avec ce même amour par lequel nous sommes allés au-devant du monde, aller dire « Seigneur, tu sais toutes choses » et ne pas nous séduire nous-mêmes. On l'a souvent dit, le Seigneur Jésus, et vous l'avez vu, on le voit dans les évangiles, souvent il s'isole pour aller prier. Il a passé des nuits entières pour prier parce qu'il cherchait ses heures de solitude, ses heures où il pouvait parler à Dieu de tout ce monde qui était autour de lui, de tous les hommes qui étaient autour de lui. Et il allait d'abord prier pour les hommes, pour parler à Dieu des hommes, avant d'aller dans le monde pour parler aux hommes de Dieu. Et nous avons besoin de réaliser cela aussi. Cette prière, cette dépendance, aller demander à Dieu et aller ainsi, humblement, parce que ce que j'ai reçu, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Vivons notre vie chrétienne avec humilité, avec foi, mais n'oublions jamais l'amour de Dieu pour nous et vivons dans cet amour-là. L'Église est là pour nous. La vie de l'Église est là justement pour rafraîchir chaque fois cet amour de Christ. Pas pour que nous vivions cet amour d'une manière vase clos, mais pour que nous rafraîchissions nos sources, parce que c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver quand après une semaine de travail, de combat, de lutte, d'incertitude, de haine qu'on peut éprouver. Par la grâce de Dieu, nous n'avons pas de persécution ouverte, mais que de moqueries, que de moqueries. Je pense à nos enfants, à nos jeunes dans les écoles. Que de moqueries aujourd'hui, plus que jamais. N'est-ce pas ? Prions pour eux. Portons ces choses devant le trône de la grâce. Et vivons notre vie chrétienne d'une manière qui lui soit agréable. Oh, que les enseignements de Jean sont grands. Ce cher serviteur qui termine sa vie, qui va aller, je ne sais pas si à ce moment-là, il est déjà sur l'île de Patmos, je ne le connais pas assez tout, mais il a lui-même dû subir cette épreuve-là de la réjection, qu'importe. C'est sur l'île de Patmos qu'il a vu les cieux ouverts et qu'il a vu Jésus-Christ dans toute sa gloire et qu'il lui a été révélé le grand plan pour l'éternité future. Bien-aimés, nous aussi, nous pouvons nous élever dans ces choses-là. Mais vivons sur les traces de ces chers serviteurs que Dieu nous a donnés. Prenons garde à nous-mêmes. Vivons dans cet amour de Dieu pour nous.